Mais qu'est-ce que c'est ça?
Hé, mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh, ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Dossier bizarre. Jason Lévesque est avec vous et je suis accompagné de Monsieur Tristan Brunet-Dupont. Bonjour Tristan.
Salut Jason.
Ça va bien?
Ça va bien toi?
Ben oui, ça va très bien. Écoute, c'est une première aujourd'hui hein, parce qu'on travaille chacun de chez soi. Parce qu'habituellement, moi je m'installais dans les studios de la radio pour enregistrer Dossier bizarre. Mais là, étant donné qu'on est toujours en pandémie, qu'on ne sait pas quand on va voir le bout de tout ça, j'ai décidé de m'équiper pour le télétravail parce que c'est important aussi là, de pouvoir limiter nos déplacements. Et ça nous permet de faire Dossier bizarre bien installé chacun chez nous.
Ben oui, c'est le fun ça. C'est cool de s'équiper. Fait que là, t'es pas à la station de radio, t'es chez toi.
Exactement, je suis dans mon bureau à la maison avec tout mon équipement là, et pour la première fois. On est complètement autonome, on pourrait dire ça comme ça.
Ben oui, les deux ont cabané dans notre chez nous pour enregistrer le podcast. C'est quand même cool, ça. Vive la technologie.
Et voilà. Bon, parce que la technologie, ben c'est ça. Ça nous permet quand même, s'il y a quelque chose de positif qui ressort de tout ça, je pense qu'on va avoir maximisé notre utilisation de la technologie durant cette fameuse pandémie.
Absolument. Hey Jason, petit fait cocasse, je viens de passer 30 minutes à déneiger à sortir mon char de la neige. Mon char était pris dans la neige. Ça y est, hein, on est vraiment en plein cœur de l'hiver au Québec. Là. Et salutations à nos amis de l'Europe. Des fois, quand vous avez de la neige, eh bien...
Oui, mais eux, 2-3 cm de neige et c'est la catastrophe.
Exact. Eh bien là, imaginez, mon père, il a fallu que mon père vienne m'aider avec des pelles et tout, parce qu'en l'espace de 2 heures, il est tombé 30 cm. En 2 heures, 30 cm. Puis là, c'est ça, c'est sans compter les dunes, les.
Oui, bien, il y a beaucoup de poudrerie, beaucoup de vent là, actuellement. Là. Et nous, ici, sur la Côte-Nord, là, qui est à peu près à 1200-1300 km là, de chez toi, on n'a pas encore de neige, on n'a pas de vent du tout, mais on attend entre 50 et 70 cm d'ici demain matin. Alors, ce sera une grosse tempête, nous autres aussi. Les écoles vont être fermées, probablement.
On approche presque le mètre de neige.
Absolument, oui. Puis ça arrive à l'occasion, hein, souvent. Dans des années où on n'a pas beaucoup de neige, il y a une tempête qui va nous marquer parce que celle-là va comme équilibrer la quantité de neige reçue en ayant beaucoup, beaucoup de centimètres la même journée.
Exactement.
Hey Tristan, sans plus tarder, parce que là, c'est toi qui nous présente un sujet cette fois-ci. Alors, on a parlé là, du manuscrit de Voynich. D'ailleurs, merci beaucoup. Hein, beaucoup de gens qui ont interagi avec nous. Je pense qu'il y a des gens qui vont se l'être acheté. On a même eu une maman qui nous a dit que son enfant avait écouté le podcast et que lui aussi avait fait un petit groupe avec ses amis à l'école pour tenter de découvrir la signification du manuscrit de Voynich. Beaucoup de gens qui ont fait des retours aussi avec le monsieur allemand qui disait avoir découvert la signification des symboles, on le sait, mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce qu'à chaque année, il y a 10-15 personnes qui disent avoir découvert le code. Alors, on va attendre d'avoir plus de détails un peu.
Ah ben c'est cool, oui, effectivement. Merci de nous avoir écrit pour ce sujet-là qui pique encore ma curiosité. Je l'ai repensé une couple de jours après, puis j'étais comme « Ah, le manuscrit Voynich, c'est donc bien aidé. »
D'ailleurs, il est disponible, le facsimilé, la copie est disponible sur les plateformes comme Amazon et dépendamment de la période de l'année, parce qu'il y a des spéciaux, des fois, ça va vous coûter entre 20 et 35 $ environ, ce qui est quand même raisonnable. Mais là, on sort de la littérature, Tristan, et on s'en va dans le firmament du cosmos.
Exactement. Le premier épisode de 2021, c'était l'île de Pâques, donc on est resté sur Terre. Après ça, on a fouillé les archives, les secrets de la littérature d'un manuscrit inconnu. Et là, on quitte notre chère planète Terre. Et oui, on s'en va dans l'espace très, très loin. On va aller explorer là, un astéroïde hyper bizarre. Donc, tout le monde en parle en ce moment.
Ben oui, c'est ça, j'ai vu passer beaucoup de choses à propos de l'astéroïde. Je vais te dire très, très, très honnêtement, quand tu m'as annoncé ton sujet, je me suis dit « Ah, ben j'ai vu des images, j'ai vu des gens en parler, mais j'ai pas eu le temps de creuser. » Alors, j'ai très, très, très hâte de savoir qu'est-ce qu'il y a de particulier ce fameux astéroïde. Et je pense avoir vu un chercheur quelque part qui parlait de possibilités d'extraterrestres, mais je sais même pas si ça a un lien avec l'astéroïde que tu parles ou si ça en est un autre complètement. Alors, je suis une feuille blanche, une feuille vierge pour toi aujourd'hui, Tristan, et je te laisse nous raconter cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a de mystérieux avec ce fameux astéroïde?
Excellent. Eh bien, on est parti. On s'en va dans l'espace. On va commencer, Jason, par faire un petit cours en un, rapido presto. Je vais prendre un peu de temps pour mettre les bases là, sur notre système solaire. Des informations très basiques, mais que même moi, je veux dire, je lis beaucoup sur la science, puis là, il y a des faits que j'avais complètement oubliés sur notre système solaire, et je pense que ça va être important pour mieux comprendre cet astéroïde qui est passé là, dans notre système solaire. Donc, je me suis rendu sur le site de l'Agence spatiale canadienne, et on va mettre quelques informations là, à jour pour le plaisir. Donc, je rappelle que c'est à partir d'un nuage de gaz et de poussière dans l'espace, il y a 4,5 milliards d'années que s'est formé notre système solaire. Donc avant, là, il y a 4,5 milliards d'années, on était juste un nuage de poussière et de gaz qui circulait dans l'espace. Et à un moment donné, toute cette matière-là s'est rassemblée pour former le Soleil, les planètes, mais aussi tous les corps célestes, donc les astéroïdes, les comètes, les planètes naines. Tout ce qui est dans notre système solaire a été formé à partir de cette poussière et de ce gaz il y a donc 4,5 milliards d'années.
Ça veut dire ça, Tristan, si je ne fais pas le ménage en dessous de mon lit pour 4,5 milliards d'années, j'ai la possibilité de créer une galaxie avec toute la poussière et ce qu'il y a en dessous de mon lit actuellement.
Ça serait effectivement peut-être pas possible, mais c'est quand même très drôle d'y penser. On vient de la poussière en fait d'étoiles et la poussière en dessous de notre lit, ça c'est une autre affaire. J'avoue que tu me prends un peu par surprise avec cette petite blague, Jason.
Donc, on revient quand même très loin là, à 4,5 milliards d'années au moment où a commencé à se former notre système solaire ou la galaxie, tu disais?
Notre système solaire.
Donc, notre système solaire, nos planètes actuellement, les lunes, ce qu'il y a autour, s'est formé il y a environ, ou a commencé à se former il y a environ 4,5 milliards d'années.
Exactement. Donc, tu sais, il y a le Soleil, il y a les planètes qui tournent autour du Soleil. Ensuite, je vais vous parler un peu de la différence entre une comète et un astéroïde.
Oui, parce que souvent, on confond les deux, hein?
Exactement. Puis, c'est vraiment plutôt touché, quand même, la différence. Mais les comètes et les astéroïdes, bon, sont de taille semblable.
Ça comme différence, ils ont à peu près la même taille.
Exact. Mais leur composition est très différente. Premièrement, ils sont situés aussi dans des parties très distinctes du système solaire. Les comètes sont un peu comme des boules de neige cosmique sales.
Ah, ben regardons ça. Donc, c'est un peu comme au printemps, quand la neige commence à fondre et brune, c'est à peu près ça.
Exactement. Les comètes sont faites de glace, de gaz gelé, de roches et de poussière. Elles peuvent faire de quelques centaines de mètres à plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, et les comètes se trouvent le plus souvent aux confins du système solaire où elles restent gelées. Donc, elles sont vraiment là, à la frontière, à la limite là, de la fin de notre système solaire. C'est là qu'elles sont, les comètes. Elles sont en suspension dans l'espace et elles ont une orbite très, très lent pour la plupart, là, même que la plupart des comètes en fait vont rester là, dans le fin fond, un peu comme les observateurs, la tour de guet, l'entrée de notre système solaire, c'est les comètes qui sont les premières. Donc, si on arrive dans notre système solaire, on va entrer en contact avec des comètes. Là, c'est vraiment eux qui sont le plus loin, en gros.
Donc, eux, mais ils restent quand même en orbite autour du Soleil. S'ils sont à la limite de notre système solaire, elles tournent très, mais extrêmement lentement, donc leur orbite doit être extrêmement long. Mais est-ce qu'elles tournent quand même? Est-ce qu'elles ont une orbite autour du Soleil? Est-ce qu'elles sont affectées par le champ gravitationnel du Soleil, comme par exemple la Terre? C'est la raison pour laquelle on tourne autour du Soleil. C'est la gravité du Soleil là, qui a créé un équilibre dans l'ordre des planètes et qui fait que chaque planète tourne autour. Est-ce que les comètes sont aussi affectées par ça?
Oui, mais comme elles sont très, très loin du Soleil, elles sont... Pour la plupart, là, leur orbite est assez irrégulier. Okay. Pratiquement, leur mouvement là, est tellement quasi stable, en fait. Là,
d'accord.
Mais ça peut arriver qu'il y a des comètes qui ont des orbites, mettons, qui vont revenir dans notre champ de vision local de la Terre à chaque temps d'années. Mais pour la plupart des comètes, là, quand on essaie de les imaginer dans notre système solaire, on a le Soleil, les planètes qui tournent autour du Soleil, et beaucoup plus loin, on a les comètes à la frontière de notre système solaire qui flottent dans l'espace.
Donc, on est à peu près situé dans l'organisation de tout ça, et là, on parle des comètes.
Exactement. Et en gros, je rappelle, là, l'élément important des comètes, c'est vraiment qu'ils sont formés de glace et de gaz gelé qui va se vaporiser quand ils vont approcher du soleil. C'est pourquoi on va voir des fameuses les queues lumineuses. Là, ça va laisser une traînée derrière la comète. Ça, c'est la glace et le gaz qui fond. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on peut distinguer, en fait, une comète d'un astéroïde. Les astéroïdes, appelés parfois planètes mineures, contiennent en grande partie les mêmes éléments que les planètes telluriques du système solaire. Donc, en gros, les astéroïdes, c'est de la roche.
Okay.
C'est de la grosse roche et du carbone et des métaux. Et l'emplacement des astéroïdes est différent. Les astéroïdes, on va les trouver dans la ceinture principale, la ceinture d'astéroïdes entre les orbites de Mars et de Jupiter. Donc, cette ceinture contient des millions d'astéroïdes, mais leur masse totale, en fait, là, est un peu moins que celle de la Lune, mais en gros, il y a quand même des millions d'astéroïdes là. Donc, pour faire plus bref, on a le Soleil, on a les planètes telluriques qui tournent autour, et entre les orbites de Mars et de Jupiter, on a la ceinture d'astéroïdes où on retrouve quasi pratiquement la totalité là, des astéroïdes de notre système solaire.
D'accord. Et là, eux, on dit que c'est de la roche, donc y a pas de glace vraiment. Il y a, j'imagine donc, quand ils sont en déplacement, il n'y a pas de traînée non plus.
Non, exactement. Il n'y a pas de traînée. Lorsque, mettons, que s'il y a deux astéroïdes qui se foncent dedans, dans la ceinture d'astéroïdes, ça peut dévier un astéroïde hors de la ceinture d'astéroïdes. Et il peut se retrouver près du Soleil. Il peut même foncer dans le Soleil. Il peut foncer dans la Terre, hein, comme... l'extinction des dinosaures, c'était un astéroïde qui avait percuté la Terre, mais ce n'était pas une comète, donc il n'y avait pas de traînée bleue derrière. Pas de traînée de glace, ni de traînée de gaz derrière, parce que c'était de la roche, des métaux, tout simplement.
Donc, est-ce que c'est les deux plus grandes différences, l'endroit où on les trouve dans notre système solaire et la composition de la chose?
Oui, absolument. C'est vraiment les deux distinction qu'on peut faire. Je peux vous lire la description, la définition très courte qu'on fait de l'Agence spatiale canadienne là, d'une comète et d'un astéroïde. On dit « La comète, c'est une masse de glace, de roche et de poussière qui dérive dans l'espace, souvent dotée d'une queue qui grossit à mesure que le corps s'approche du Soleil. La queue est constituée de grains de poussière et de plusieurs autres matières ionisées par l'énergie solaire. L'astéroïde, c'est un corps en orbite autour du Soleil, habituellement situé dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, formé de roches, de métal, et la taille d'un astéroïde peut varier de quelques centimètres à près d'un millier de kilomètres de largeur.
C'est une grosse roche.
Exactement. Donc, en gros, c'est vraiment ça. L'astéroïde, c'est dans la ceinture d'astéroïdes, plus près du Soleil, là, dans la ceinture, et les comètes, eux autres, ils viennent de beaucoup plus loin, là, du confin de notre système solaire, et ça peut arriver que les comètes se rapprochent du système de notre Soleil. Et si c'est le cas, on va voir une belle traînée bleue dans le ciel. Il y en a eu une dernièrement, là, je pense, il y a quelques mois, là, on pouvait observer une comète dans le ciel vue de la Terre, là, et ça a marqué l'actualité.
Et d'ailleurs, il y a la comète de Halley qui est, moi, quand j'étais jeune, j'avais peut-être là, 9 ou 10 ans, ça avait été un gros événement parce qu'elle revient ou elle est visible, je pense, aux 75 ans ou quelque chose comme ça, ce qui veut dire que elle fait une espèce d'orbite où elle passe à un moment donné suffisamment près de la Terre pour qu'on puisse la voir, malgré que c'est quand même des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres, mais elle passe suffisamment proche pour qu'on voit une traînée dans le ciel et elle revient aux 75 ans. Ça veut donc dire qu'elle fait son tour sur 75 ans, ce qui est l'équivalent d'une année pour nous autres. La comète de Halley, elle, c'est 75 ans.
Ah ben merci d'apporter cette information. C'est justement l'exemple parfait qui décrit... c'est l'orbite d'une comète, c'est exactement ça, parce que les astéroïdes, en général, ils vont rester dans la ceinture d'astéroïdes.
D'accord.
Et si jamais il y a un astéroïde qui passe, bon, qui dévie, maintenant il y en a deux qui se rentrent dedans puis qui dévie, il peut y avoir des corps célestes pratiquement non visibles parce que, tu sais, il n'y a pas les collisions peuvent être complètement aléatoires. En ce moment, pendant qu'on se parle, il y a peut-être deux astéroïdes qui se foncent dedans dans la ceinture et ça en fait dévier un qui va passer près de Mars et qu'on ne verra pas, tu sais, parce que c'est. On n'est pas tout le temps en train d'observer chaque petite parcelle de notre système solaire en détail. Mais en gros, les astéroïdes, ça reste... moi, ils me font peur.
Ben oui, parce que c'est imprévisible. Hein? C'est imprévisible. Et souvent bon, on va augmenter la peur parce que là, c'est la course au clic. Tout le monde veut qu'on clique sur son article, sur son vidéo, sur son podcast. Mais on voit souvent des articles passer puis Ça va dire, oh, est-ce que c'est cet astéroïde qui détruira la Terre? Et là, ben, on apprend que l'astéroïde va passer à 500 millions de kilomètres de la Terre, mais que la trajectoire est quand même suffisamment proche pour inquiéter ou que la NASA garde un œil là-dessus. Mais là, si on savait ce que les agences spatiales surveillent dans le ciel, on aurait peut-être un petit malaise à savoir la quantité d'objets comme ça qui sont sous observation. Alors, on est peut-être mieux de ne pas y penser parce que ça reste des observations. On regarde pour être certain qu'il n'y a pas de risque, mais pour l'instant, on ne se retrouvera pas dans un scénario de film où là, il y a une pluie là, de roches gigantesques qui tombent sur la Terre et qui va détruire la moitié de la planète, puis on va aller devoir se cacher dans des bunkers. Il n'y a pas de scénario comme ça, évidemment, là, qui est en jeu, mais de temps en temps, on a un article qui va sortir pour tenter de faire peur aux gens, puis qui va nous faire cliquer parce qu'on veut savoir, « Hey, je vais-tu mourir? Voyons donc, il me reste des affaires à faire dans ma vie, moi. » Et on va cliquer dessus et on va aller voir. Et souvent, on va parler d'un astéroïde, mais qui va passer à une distance tellement grande de la Terre que le risque est inexistant. Mais on appelle ça quand même des passés proches ou des quasi-collisions parce que la distance est suffisamment petite pour qu'on garde sous observation l'objet là, qui va passer proche de la Terre. Mais il y en a eu il y en a plusieurs astéroïdes comme ça à chaque année qui reviennent et qui vont faire en sorte qu'on va en entendre parler. Et là, il y en a un en particulier qui semble avoir retenu l'attention beaucoup plus que les autres, pas nécessairement parce qu'il était dangereux, mais par sa nature, c'est ça?
Exactement. Donc là, on a mis les bases, c'est fait. On a l'image, juste pour imager dans notre tête, là, un peu plus le système solaire. Donc, je le rappelle une dernière fois, le Soleil, les planètes qui tournent autour, on a la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, qui ressemble un peu au chat d'astéroïdes dans Star Wars, le oui. Han Solo, dans Star Wars épisode 5, qui est obligé de traverser toutes les grosses roches avec le Faucon Millenium, c'est pareil. Et après ça, on a les planètes beaucoup plus loin, là, Neptune, puis Uranus, là, je ne suis vraiment pas un expert des planètes. Et finalement, derrière ces planètes-là, on a Pluton et les comètes qui sont en sphère autour de notre système solaire. Maintenant, le 19 octobre 2017, on a découvert par le télescope Pan-STAR 1, installé sur l'observatoire Alakala à Hawaï, on a découvert un gros objet qui est passé à 30 millions de kilomètres de la Terre. Et l'observatoire du Alakala, c'est un centre de recherche astronomique américain situé à Hawaï, qui est situé au sommet du volcan Alakala. Et il est à 3050 mètres d'altitude. Selon plusieurs experts, c'est le meilleur endroit au monde pour observer les étoiles parce que la pollution lumineuse, il n'y en a pratiquement pas. On est en plein milieu du Pacifique. Sur un volcan à Hawaï. Donc, c'est un des observatoires les plus importants au monde. Donc, le 19 octobre 2017, on a découvert un gros objet qui est passé à 30 millions de kilomètres de la Terre. La première semaine, après les premières analyses, on pensait que c'était une comète qui provenait du fin fond de notre système solaire, d'où proviennent habituellement les comètes. Donc, on l'a appelé C-2017-U1. La semaine suivante, Jason, on se rend compte que l'objet ne possède pas vraiment d'activité cométaire. On ne voit pas la fameuse traînée de poussière, de glace derrière lui. Et ça explique qu'il est sûrement formé de matière rocheuse et non de glace, ce qui le classe finalement dans la catégorie des astéroïdes. Donc, le 6 novembre 2017, avec les analyses détaillées, on se rend compte qu'en fait, il ne vient même pas de la ceinture d'astéroïdes entre les orbites de Mars et de Jupiter, ni du confin de notre système solaire, d'où proviennent généralement les comètes. On confirme donc, le 6 novembre 2017, que c'est le premier objet interstellaire connu à ce jour.
Il vient de l'extérieur de notre système solaire.
Exactement.
Et on ne sait pas vraiment de où il vient, mais on a pu confirmer qu'il ne venait pas de notre système solaire, donc il ne vient pas de la fameuse ceinture d'astéroïdes. Il ne vient pas de nulle part d'autre ailleurs. C'est ça?
Exactement. Donc, c'est le premier astéroïde interstellaire connu à ce jour. C'est incroyable. Il vient pas de chez nous.
Ben non, mais c'est étrange.
Exactement. Donc, après la confirmation de sa nature interstellaire, l'objet a été renommé 1I-Oumuamua. 1 parce qu'il s'agit du premier objet de cette catégorie à être découvert et I pour interstellaire. Donc, l'objet a été baptisé du nom hawaïen Oumuamua, qui signifie éclaireur ou encore un messager arrivé de loin en premier.
Oh! Ouais, ça implique plein d'affaires.
Oh que oui! Puis là, ça commence, là c'est fou. Là le monde, l'intérêt pour cet objet est devenu phénoménal quand on a appris qu'il ne venait pas de notre système solaire.
Donc là, on est il y a 3 ans, là, c'est 2017, novembre, donc là, on est en janvier, là, février, en fait, 2021, au moment d'enregistrer cette émission-là. Donc, ça fait un tout petit peu plus que 3 ans, mais on n'en a pas entendu parler pendant 3 ans de temps. Tristan, je me souviens, finalement, ce que tu dis là, vaguement, je me souviens là, qu'il y avait eu comme un espèce de mouvement où là, on parlait de ça, hein, puis là, tout le monde avait sa propre théorie, puis... Mais après ça, on a arrêté d'en parler complètement. Et là, on dirait que ça revient à l'avant-plan. Parce que comme je t'ai dit, j'en ai vu le passé. Là, des gens qui en parlent, des gens qui le mentionnent, des articles. Alors, y a-t-il une raison pourquoi là, soudainement, début 2021 ou fin 2020, début 2021, soudainement, on recommence à en parler?
Oui, absolument. C'est un scientifique très connu là, qui a recommencé à en parler, qui a dit tout simplement, là, on va pouvoir en revenir plus dans la deuxième partie de l'émission, mais lui, il dit que c'est probablement, en fait, un vaisseau qui a été créé par une civilisation extraterrestre. Donc,
Il s'est levé un matin, il a pris son café, puis il a dit « Bon, m'en aller sur Twitter, puis c'est des extraterrestres. » c'était fait.
La phrase, c'est que c'est le président, vous allez voir, je vais en parler plus en détail tantôt. Oui. Là, on va aborder les caractéristiques de l'objet en question. Mais c'est un homme qui est extrêmement crédible dans le monde de la science. Donc, c'est pas Johnny, comme on dit souvent, là. C'est pas John, monsieur qui boit 48 bières chez lui en jogging dans son sous-sol, qui a dit « Ah, moi, je pense que c'est des extraterrestres! » On parle d'un génie très, très connu là, qui a émis cette théorie, mais on y reviendra.
Ben oui, on va y revenir certains. Et là, écoute, on va passer à l'astéroïde, l'objet lui-même. On va pas parler de ses caractéristiques, parce que je pense que d'un point de vue caractéristique aussi, il y a des particularités assez exceptionnelles. Là.
Absolument.
Oui, donc on va faire une petite pause, Tristan, et on va revenir et on va recommencer à partir de là, donc les caractéristiques de l'objet et pourquoi ce monsieur-là est sorti soudainement de nulle part pour... Ben en fait, il n'est pas sorti de nulle part, tu l'as dit, c'est un génie. Mais pendant un bout de temps, on n'en parlait plus. Je pense qu'on avait collectivement oublié cet objet-là. Et lui, il revient comme ça et remet à l'avant-plan la fameuse visite de l'astéroïde mystérieux qui venait d'en dehors du système solaire.
Excellent!
Alors, on fait une petite pause, on revient tout de suite.
Les dossiers bizarres est une présentation de...
Wouf! 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 Wouf!
J'aimerais tant savoir... Qu'est-ce que mon chien dit?
Vous aussi aimeriez savoir ce que raconte votre animal de compagnie? C'est maintenant possible grâce à notre synthétiseur vocal pour animal de compagnie, le Minou Pitou 2000. Le Minou Pitou 2000 peut traduire ce que raconte votre chien.
Viens le beau chien, viens faire un bisou à maman.
Wouf, 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 wouf.
Ça sent pas bon dans ta bouche. Si tu lavais tes dents des fois, je te donnerais des bisous.
Le Minou Pitou 2000 peut également comprendre le langage des chats.
Oh, mais qu'est-ce que t'as fait, le bon petit minou à moi, mon petit minou, 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 minou? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que fait le beau minou?
J'ai fait caca dans tes souliers.
Oui, avec le Minou Pitou 2000, vous souhaiterez ne jamais avoir su ce que raconte votre animal de compagnie. Disponible dans toutes les bonnes quincailleries. Nous sommes de retour et aujourd'hui, en compagnie de Tristan Brunet-Dupont, on parle d'un mystérieux astéroïde, le tout premier qui nous a visité et qui venait de l'extérieur de notre système solaire. Alors, c'était le 1... c'était quoi le nom exact? Un, c'était le premier, le deux, après ça, il y avait une lettre puis un nom.
C'est le 1I Oumuamua.
Et voilà, c'est un mot hawaïen pour dire éclaireur ou qui arrive en premier.
Exactement, donc l'astéroïde Oumuamua dont tout le monde parle en ce moment parce qu'il y a un scientifique qui a émis l'hypothèse que ça serait peut-être un vaisseau, Jason.
Ben c'est ça, là, une construction, ce n'est pas une roche, mais bel et bien quelque chose qui aurait été fait par une entité intelligente.
Oui, exactement. Il y a plusieurs hypothèses dans son livre parce qu'il a sorti un livre carrément de 273 pages où il explique toutes sortes de théories. Mais on y reviendra. Avant de parler de sa théorie, Jason, je veux juste parler de quelques caractéristiques étranges de cet objet.
Ben oui, parce que c'est de là que, même avant que lui sorte son livre, je me souviens qu'au moment où on avait eu les premières images de l'astéroïde, déjà il y a plusieurs personnes qui avançaient des théories qui s'en allaient dans cette direction-là. À cause de sa composition, de sa construction, de sa forme, on avait comme plein de théories qui étaient déjà sorties en 2017.
Exactement. Donc, à commencer par sa rotation et sa taille. Donc, la lumière qui le réfléchit est comme multipliée par 10 toutes les 7,3 heures. Donc, en gros, les photographies qu'on a prises de lui, bon, on voit que la lumière est réfléchie. Bref, avec la photographie, on appelle ça les variations photométriques de l'astéroïde, on a conclu qu'il avait une rotation chaotique, un peu comme un missile ou une torpille qui est partie de manière un peu chaotique. Là.
D'accord.
Donc, sa rotation est un peu chaotique. Vraiment, il tourne pas, tu sais, il tourne, mais un peu tout croche, dans le fond. Et l'hypothèse d'une collision avec un autre astéroïde expliquerait peut-être cette rotation un peu chaotique. Et la modélisation de la rotation indique que celle-ci devrait se poursuivre pendant des milliards à des centaines de milliards d'années avant que les contraintes internes ne stabilisent sa période de rotation. Donc, en gros, c'est un très long tour de manège si on se trouve à bord de cet astéroïde. Pour sa couleur, cet objet interstellaire est rouge foncé, couleur probablement due à des millions d'années de bombardement par les rayons cosmiques alors qu'il traversait l'espace interstellaire. Et il est 800 mètres de long, et puis sa longueur est 10 fois supérieure à sa largeur.
Donc, finalement, c'est une forme de cigare. Là.
C'est ça, exactement. Un sous-marin, on peut imaginer un sous-marin aussi, la forme d'un sous-marin, d'un cigare, et il est énorme, 800 mètres de long. C'est quasiment un kilomètre, là. C'est un gros objet quand même.
Donc, on a déjà une forme qui soulevait les questionnements au moment où on a vu les premières photos. Une texture, tu parlais de la lumière qui se reflète, c'était pas, ça semble pas être un effet qui pourrait être acquis ou fait naturellement, à moins que ce soit quelque chose qui a été fait de manière particulière. Alors déjà en 2017, ces questions-là étaient soulevées, mais on les prenait pas nécessairement au sérieux.
Non, exactement, parce que c'est tout le mystère de cet objet. Qui sait il a quel âge? Qui sait comment il a été créé? Est-ce que c'est parce qu'il a passé trop près de son soleil? Son orbite a été déviée? Il est sorti de son système solaire? Peut-être que ça fait des milliards d'années que cet objet-là circule dans l'espace interstellaire et on n'a aucune idée de sa formation. Il y a plein d'hypothèses, dont la collision entre deux astéroïdes qui proviendraient d'un autre système solaire. C'est vraiment mystérieux. Mais il y a quelque chose de bizarre, Jason, qui ressort de ça. C'est en juin 2018, une analyse fine des données astronomiques révèle que le premier objet interstellaire connu à voyager dans notre système solaire a une vitesse légèrement supérieure à celle prévue. Quelque chose d'autre que les forces gravitationnelles du Soleil et des planètes affecte son mouvement. Okay. L'hypothèse la plus probable est celle d'un dégazage, mais il n'y a pas de traces de poussière ni de glace derrière lui. Donc, le dégazage, ce qui crée habituellement cette traînée lumineuse derrière une comète, il n'est pas là. Donc, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui a été créé pas par la gravité, pas par le Soleil, pas par la gravité des planètes. On ne le sait pas.
Donc là, est-ce qu'on parlerait de potentiellement, parce qu'on ne pourra pas le prouver, mais est-ce qu'on parlerait de potentiellement une propulsion artificielle?
Eh bien, c'est justement ce que le scientifique a émis comme hypothèse. Mais pour donner une petite idée, là, on parle d'une accélération près du Soleil. Donc, il voyageait à 25,5 km par seconde quand on l'a détecté. Et quand il est passé vraiment près du Soleil, il s'est mis à accélérer pour atteindre 87,3 km par seconde.
OK, on n'a pas augmenté de 1 km par seconde. Là. On parle plus que le triple de la vitesse. Là.
Exactement. Puis là, il y a plusieurs personnes qui ont dit « habituellement, c'est ça qui se passe pour les comètes ». Il y a un dégazage qui se crée, puis là, une question de pression, une question de chaleur, ça augmente l'énergie à l'intérieur de la comète et elle se met à accélérer. Il y a la gravité aussi qui rentre en jeu.
Oui.
Mais là, c'est pas ça, parce qu'il vient pas de notre système solaire. Donc, il y a une orbite qui, lui, il vient du fin fond de l'univers. Donc, lui, il est arrivé en ligne droite vers le Soleil, puis quand il est passé près du Soleil, oui, la masse du Soleil l'a incité à courber sa trajectoire, mais l'accélération, ça veut dire que ça serait une comète, mais il n'y a pas de trace de gaz qui est dégagée. Donc, on ne sait pas trop, en fait, pourquoi il a subi une accélération. L'hypothèse la plus probable, c'est que ça serait comme de l'hydrogène, de l'hydrogène, donc la matière ne serait pas visible à l'œil nu. Donc, ça serait quand même l'hypothèse la plus plausible, le dégazage qui quand il passe près du Soleil. Mais ça reste extrêmement bizarre, cette accélération et ce mouvement chaotique. Il n'y a pas d'explication encore.
Donc, ça reste... on parle, puis on va en parler là, bientôt, le scientifique là, qui a publié un livre pour arriver à ses conclusions à lui. C'est des hypothèses qu'il émet, mais il y a d'autres hypothèses qui viennent contredire les siennes aussi. Il faut garder ça en tête également. Là. Il n'y a pas seulement une ligne de pensée ou un scientifique qui a étudié le phénomène. Il y en a d'autres qui arrivent avec des hypothèses qui sont peut-être un peu, je dirais pas farfelues parce qu'on ne le sait pas, mais peut-être un peu moins aux extrêmes là, de commencer à parler que c'est un véhicule qui arriverait d'une autre galaxie avec une construction là, par quelqu'un d'intelligent. Il y a d'autres scientifiques qui vont dans des directions différentes aussi, puis qui disent que c'est 100% un phénomène naturel.
Absolument, tout ce qui est étrange autour de ça, mais son accélération, le mouvement, il y a comme un consensus au niveau des scientifiques quand même sur le globe qui disent que c'est probablement un dégazage, ce qui a probablement créé son accélération soudaine quand il a passé près du Soleil. Ça, les scientifiques, c'est un consensus, mais encore là, on ne peut pas le prouver. On n'a pas de preuves tangibles pour prouver à 100% que c'est un dégazage qui a causé son accélération. Mais je dirais que c'est c'est l'hypothèse qui revient le plus souvent auprès des scientifiques. Quoique, tout dernièrement, il y a d'autres scientifiques qui ont dit que ça ne pouvait pas être un dégazage pour d'autres raisons. Fait qu'on est encore en train de s'obstiner sur le sujet. Jusqu'à ce qu'arrive Avi Loeb. C'est lui, on y arrive, Jason, ça y est.
Donc, on arrive au monsieur qui, lui, a décidé d'aller dans la direction des extraterrestres.
Exactement. Mais là, dans la plupart des articles, en fait, sur le web, on dit « Avi Loeb, c'est l'ancien directeur du département d'astronomie de Harvard ». Donc, il est crédible, mais quand on va voir...
C'est ça, c'est pas quelqu'un qui... En fait, c'est pas un pseudo-scientifique, c'est pas quelqu'un qui a des connaissances très avancées, mais qui a toujours eu tendance à aller dans des directions là, un peu farfelues. On parle vraiment de quelqu'un qui a un poste dans une université, donc il y a quand même une certaine reconnaissance par ses pairs pour ses connaissances et sa capacité d'analyse scientifique. Et c'est lui qui arrive avec une théorie comme ça, ou des analyses, ou une conclusion comme ça. Ça doit être drôle quand il y a comme un souper de job, hein, quand ils se rassemblent toute la gang ensemble, puis se mettent à jaser. Depuis qu'il a émis ces hypothèses-là, depuis qu'il a publié son livre, il y a peut-être des gens qui le voient différemment depuis ce temps-là.
C'est vrai. C'est exactement le point sur lequel je voulais qu'on parle un peu ensemble, Jason, parce que la plupart des articles parlent un peu d'un scientifique, t'sais, mais qui connaît son sujet un peu, bon, qui a déjà été ancien directeur du département d'astronomie de Harvard, là, jusqu'à ce que je me rende sur un site officiel d'astrophysique américaine, le site officiel de l'astrophysique de l'Université d'Harvard, et on voit sa biographie. Pour vrai, j'en revenais pas, Jason. Je vous décris, là, vite, vite, ce qu'on dit pas dans la plupart des articles. C'est incroyable. Avi Loeb, il a été professeur d'astrophysique à l'Université de Harvard, dont il dirige le département d'astronomie depuis 9 ans. Il est le directeur fondateur de son centre d'études des trous noirs. Il est directeur de l'Institut de théorie et de calcul, l'ITC, du Centre d'astrophysique Harvard. Il préside le comité consultatif du projet Breakthrough Starshot. Il supervise le programme scientifique de la Fondation. Il préside le conseil des Académies nationales de physique et d'astronomie des États-Unis. Il est membre du comité des conseillers du président des États-Unis sur les sciences et les technologies à la Maison-Blanche. Il est auteur de 6 livres et plus de 800 articles scientifiques. Et finalement, en 2012, le magazine Time a cité Avi Loeb parmi les 25 personnes les plus influentes dans le domaine de l'exploration spatiale.
Wow! Fait que là, on joue dans les mêmes ligues que les Stephen Hawking, les grands de l'astrophysique. Là, il est pas mal dans la même catégorie qu'eux.
Exactement.
Wow!
Exactement. Stephen Hawking, c'est un bon exemple. Ce gars-là, dans le fond, c'est une légende au niveau scientifique, au niveau astronomique, au niveau de l'astrophysique. C'est une légende mondiale, en fait. Et il a publié, fin janvier 2021, ça fait même pas une semaine, il a publié le livre « Le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre », 272 pages, où il explique dans ce livre, c'est un livre qui parle de plein de choses. Il va parler de la science, de la philosophie, qui nous remet un peu en question par rapport à nos idées reçues concernant là, tout ce qu'il y a dans l'espace. Et selon lui, en fait, on y arrive, là, c'est vraiment... en passant, depuis la sortie de ce livre, il y a eu un raz-de-marée médiatique là, qui s'est emporté. Tout le monde s'est remis à lire sur le fameux astéroïde Oumuamua parce que c'est vraiment la crédibilité du scientifique derrière le livre, mais aussi la possibilité que ça soit véridique, donc ce qui l'amène. Parce que pour l'astrophysicien Avi Loeb, en raison de sa forme et de sa trajectoire insolite, la seule explication logique est qu'il s'agit d'un engin artificiel construit par une civilisation extraterrestre. Il émet l'hypothèse que l'objet est sensible à la pression de radiation solaire et cette hypothèse implique, en gros, qu'il y aurait eu une sorte de voile solaire qui lui aurait permis d'accélérer près du Soleil.
Hey.
Donc, on parle peut-être pas nécessairement d'un vaisseau complet, mais peut-être qu'il y a, dans son livre, il explique, j'allais voir quelques passages de son livre, il explique que peut-être qu'il y aurait une civilisation extraterrestre qui aurait installé en fait une voile solaire sur un astéroïde afin d'explorer l'univers à travers un astéroïde un peu. Là, t'sais.
Ah, un peu comme nos sondes dans le fond.
C'est ça, exactement.
Ah.
Donc, c'est 272 pages ce livre et je vais le lire attentivement. Moi, dans les prochains mois, c'est clair que je vais me le procurer parce que
ben oui.
Ça semble être une analyse, c'est ça, philosophique. Il ne veut pas nécessairement dire, je suis sûr à 100% que c'est ça. C'est une hypothèse, selon lui. Et donc, selon lui, c'est ça. C'est vraiment ça proviendrait possiblement d'une civilisation extraterrestre ailleurs dans l'univers.
C'est quand même quelque chose, hein?
Exactement. Donc là, son livre est sorti, ça fait fin janvier. Donc, ça fait à peu près une semaine qu'il est sorti. Donc, wow. Tout le monde en parle. C'est vraiment le sujet de l'heure au niveau de la science. Et voilà.
Donc,
ça complète pas mal le sujet.
Ben oui, mais ça reste, ben c'est parce que c'est un sujet qui est en développement. Si son livre vient de sortir, j'en déduis, et un peu comme Albert Einstein avait dit, hein, qu'il avait une très grande humilité, même s'il était aussi très arrogant dans ses connaissances, disait toujours une théorie est lancée pour être détruite ou pour être contestée ou être prouvée fausse par d'autres scientifiques. Alors, il y a des théories d'Einstein, on va se souvenir d'Einstein, comme un énorme scientifique qui a changé le monde de la science, mais il y a de ces théories aussi qui ont été prouvées fausses par la suite. Là. C'est pas toutes ces théories qui se sont avérées vraies. Et lui-même le disait, je lance des théories, et il y a des gens un jour qui vont les confirmer ou qui vont les infirmer. À un moment donné, on va avoir la technologie qui va nous permettre de vérifier mes théories. Ça sera plus des théories, ça va devenir soit des sciences ou on va dire le contraire de ce que j'ai dit. Alors, en lançant son livre, et ça fait à peine une semaine, j'imagine que ce scientifique-là, qui connaît bien la communauté scientifique, s'attend à ce que d'autres arrivent avec des conclusions qui vont être différentes ou qu'on va tenter de prouver que ses conclusions à lui sont fausses ou que, bon, il est biaisé ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans son raisonnement. Mais là, on est loin du monsieur là, Giorgio Tsoukalis qui fait les émissions des anciens astronautes, là, que c'est des scientifiques autoproclamés, des gens qui ont lu sur le sujet puis que là, décident de parler des extraterrestres comme si c'était des grands scientifiques, alors que ce n'est pas des gens qui ont fait de la science ou qui sont des scientifiques reconnus. Là, on parle vraiment de quelqu'un qui est dans une ligue à part, là, quelqu'un qui a une intelligence et une connaissance de son domaine et de son sujet au-delà de ce que n'importe qui nous écoute actuellement peut avoir, à moins qu'on ait un Hubert Reeves qui écoute notre podcast. Là, je pense pas qu'il y a personne qui arrive à la cheville de ce monsieur-là. Et lui arrive avec un livre comme ça. Ça doit être dérangeant aussi pour la communauté scientifique. Pas juste le fait de dire « Oh, pour moi, il a perdu la tête », mais dire « Ça vient challenger un peu nos croyances. Parce qu'on le sait, tout le monde l'a dit maintenant, les chances qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers sont énormes. Mais de là à dire qu'on a reçu un missile qui est venu faire de l'exploration comme une sonde dans notre coin, c'est difficile à accepter pareil.
Oui, vraiment. Puis je pense que c'est ça qu'il voulait en fait. Il voulait bousculer la science, les scientifiques par rapport à l'astronomie. Parce qu'avec la quantité, on le sait, là, il y avait un épisode là-dessus là, de chances, de probabilité qu'il y ait une vie ailleurs dans l'univers. cette probabilité-là est tellement énorme, mathématiquement parlant, avec la quantité de planètes telluriques qu'il y a dans notre propre galaxie, qu'il s'est probablement dit, pourquoi pas? Pourquoi ça ne pourrait pas être une sorte de visiteur étranger, tu sais, qui vient d'ailleurs? Et sur la pochette, sur le devant de son livre, il a dit, c'est écrit, « Si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. »
C'est ça. Est-ce qu'on va réussir un jour à le prouver ou à déterminer si ses conclusions sont vraies ou fausses? Ça risque d'être un peu difficile.
Oui, il y a des agences spatiales internationales qui, en ce moment, tentent de créer une mission pour rattraper l'astéroïde avec une sonde qui va utiliser toute la technique là, de gravitation, là, de prendre un élan en tournant autour d'une planète et de rattraper l'astéroïde afin d'aller l'étudier de plus près. Et c'est selon la NASA et certaines agences spatiales, c'est extrêmement compliqué, mais réalisable. Donc,
on n'a pas une durée indéfinie là, pour faire ça. J'imagine que là, l'astéroïde, maintenant qu'il a passé derrière le Soleil, doit s'éloigner actuellement.
Exactement. Donc, c'est probablement une question de quelques dizaines d'années. Un peu comme, tu sais, il y a des missions qu'on commence là, mais que le résultat, on va l'avoir dans 20-30 ans. Je suis pas mal sûr que c'est un peu la même chose avec cette mission-là dont plusieurs scientifiques travaillent actuellement. C'est probablement ça, pour rattraper cet astéroïde. Et là, avec le livre de Loeb, je suis pas mal sûr qu'on va avoir une mission. Là, d'ici quelques années, on va apprendre qu'il va y avoir une sonde qui va décoller. Sûrement SpaceX qui va se mettre là-dedans, là, Elon Musk. Là. On va avoir probablement une réponse un jour. Mais son livre, d'abord, avant tout, je pense que c'est de bousculer puis de remettre en question cette théorie-là, tu sais, de sommes-nous seuls dans l'univers. Et avec justement, toutes les comètes, les astéroïdes, les planètes telluriques qu'on découvre à chaque année. Puis là, cet objet-là, qui est le premier objet qui vient d'ailleurs de notre système solaire, qui entre chez nous. Puis là, l'accélération inexpliquée près du Soleil, scientifiquement, je pense qu'il y a clairement des bons arguments. Je pense que c'est juste intéressant à lire son livre. Mais personnellement, moi, mon opinion derrière ça, je pense pas. Je pense que c'est un astéroïde un peu banal là, qui est arrivé d'ailleurs. Mais qui sait, peut-être qu'à la fin, après avoir lu son livre, je vais être genre, ben là, dans le fond, peut-être.
Ben, peut-être. Et peut-être aussi que c'est le fait que l'astéroïde a passé à certains endroits où il a vécu certains phénomènes, il a pris cette forme-là, ou il y a peut-être d'autres explications. Puis j'imagine, lui, il est le premier à sortir un livre, mais j'imagine qu'il y a d'autres scientifiques éventuellement qui vont se prononcer aussi. Peut-être être un peu plus conservateur dans leurs conclusions que M. Loeb peut être, mais ça reste que... ça t'a piqué ma curiosité. Je vais jeter un œil, moi aussi, pour trouver son livre. C'est sûr et certain que je vais lire ça. Peut-être avec un sourire en coin, ou peut-être aussi en dessous des couvertures, à me dire, mon Dieu Seigneur, ça s'en vient, on est fait, sont là!
Exactement, exactement. Puis les clichés sont assez flous quand même de l'objet, donc, ouais. Effectivement, de se faire des peurs. Puis son livre, il a l'air bon, le gars, il a l'air crédible, il a écrit plein de livres et d'articles. Peut-être qu'il s'est juste amusé, il a dit, je vais semer un peu la pagaille dans.
Ben oui! C'est le fun des fois faire ça. Des fois, c'est le fun de brasser un petit peu les conventions. Ça va peut-être amener, écoute, des fois, ce genre de choses-là qui, à première vue, semblent un peu farfelues, des fois, ça peut amener à des discussions intéressantes. Ça peut amener, là, on va vouloir prouver le contraire. Alors, on va peut-être redoubler d'efforts également pour essayer d'identifier qu'est-ce que c'est exactement cet astéroïde-là. Chose qu'on n'aurait peut-être pas fait si lui n'avait pas avancé ça. Bref, ça peut amener des choses. Alors, des fois, les premières conclusions comme ça peuvent sembler étranges ou farfelues, mais éventuellement, on se rend compte que ça l'a amené d'autres discussions, d'autres scientifiques à s'intéresser au phénomène, et des fois, ça fait avancer la science.
Là. Exactement. Donc, les mystères de l'univers. Je trouvais que c'était un dossier assez bizarre, cet objet-là.
C'est particulier, effectivement.
Et le livre qui vient de sortir là, il y a à peine une semaine, donc c'est d'actualité. Si vous écrivez Oumuamua ou bien Avis Loeb, vous allez voir une panoplie d'articles. Pour vrai, je me perdais un matin, là, Jason. J'étais comme, ben voyons, si France 2, Futur, Science, tout le monde a un article là-dessus. Là, chaque média parle de ça en ce moment. Donc, il y en a du stock. Je me suis même demandé, j'avais quasiment mal à la tête.
Ben, on va garder un œil là-dessus, évidemment, parce que c'est un dossier, j'imagine, qui va continuer d'évoluer, puis on va continuer à tranquillement, pas vite, en apprendre, et peut-être d'autres personnes, comme je disais, là, des scientifiques qui vont peut-être se prononcer, parce que souvent, hein, On a des scientifiques qui sont souvent très à l'avant-plan ou qui sont très, très présents dans les médias. Par exemple, Neil deGrasse Tyson, qui fait des émissions. Ici, au Québec, on a Hubert Reeves, entre autres, là, je l'ai nommé tantôt. Mais il y en a plein des espèces de scientifiques chouchous qui passent très bien à la télévision, qui sont souvent les experts quand on les invite là, dans des émissions. Alors, j'imagine qu'on va finir par aborder la question avec certains de ces scientifiques-là qui vont peut-être amener un autre son de cloche. On parlait de David Saint-Jacques aussi, hein, qui est un astronaute canadien, québécois, qui là, donne un coup de main là, dans l'effort de pandémie, mais qui est aussi là, une bolle absolument incroyable, ce gars-là. Alors, il y en a plein des scientifiques comme ça qui vont sûrement avoir quelque chose à dire à un moment donné, mais on va leur donner le temps de lire le livre.
Oui, c'est une excellente idée de suivre un peu ce que les scientifiques connus vont dire par rapport à ça. Et effectivement, ça va nous donner une bonne idée. Je vais clairement fouiller de mon bord pour aller voir c'est quoi que Hubert Reeves dit puis David Saint-Jacques à propos de tout ça. Mais voilà, donc le premier signe d'un... Le titre du livre, c'est « Le premier signe d'une vie intelligente » de Avi Loeb.
C'est quand même pas... C'est frondeur comme titre.
Puis, non, c'est ça. C'est mais c'est comme... Juste le fait que ce soit le premier objet interstellaire.
Ouais, déjà, c'est exceptionnel. Que ce soit une construction intelligente ou juste un objet naturel, ça reste que c'est quand même particulier comme événement.
Exactement. C'est le premier visiteur qui vient d'un autre système solaire ailleurs dans l'univers. Donc, c'est... Il n'y a même pas notre indice, notre trace carbone qu'on retrouve dans la plupart des matières de notre système solaire. Lui, il n'y en a pas. Il vient d'ailleurs. Donc,
ben
c'est
oui.
Un extraterrestre, entre guillemets.
Ben oui.
Ben, en fait, ouais, extraterrestre.
Extra même de notre galaxie. Pas notre galaxie, mais notre système solaire. Donc, c'est... Puis évidemment, éventuellement, on va peut-être découvrir de où il venait et de combien de kilomètres, de milliers ou de millions de kilomètres il a parcouru avant d'arriver ici.
Exactement. Exactement.
Hey, merci Tristan, c'était fort intéressant.
Ah ben, merci, ça fait plaisir. Écoute, je suis tombé là-dessus en fait semaine passée, puis j'étais comme, ah ben tiens, c'est d'actualité, puis j'avais le goût de fouiller. Je me suis dit, pourquoi ne pas partager tout ça avec vous?
Eh ben oui, et ça change un peu la direction des sujets aussi. Hein. On essaie de ne pas s'ancrer tout le temps dans la même régularité, le même type de sujet. Alors, une fois de temps en temps, là, on est allé dans plus le côté scientifique là, aujourd'hui, mais ça reste très mystérieux.
Mm-hmm. Donc, on va regarder l'espace, les étoiles différemment cette semaine.
Exactement, et on va avoir peur un petit peu. Tristan, avant de se quitter, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, des liens vers certains articles. On a parlé, et mon Dieu, je pense que c'était à la fin de la deuxième saison, on a fait un épisode sur le col de Dyatlov.
Oui, je me souviens.
Le fameux col de Dyatlov en 1959, en hein, 9 jeunes randonneurs qui sont morts dans des drôles de circonstances. Je ne referai pas l'histoire au complet, là, mais c'est 9 randonneurs russes qui ont été faire une expédition et devaient revenir là, pour une date précise. Finalement, pas de nouvelles après 2-3 jours. On ne s'inquiète pas trop parce que c'était quand même une randonnée qui durait longtemps. Mais à un moment donné, on a commencé à s'inquiéter. On a retrouvé un campement et on a retrouvé les cadavres éparpillés un peu partout sur le terrain et dans différentes conditions de blessures. Bon, il y en a qui avaient des traces de violence, d'autres qui avaient des blessures, mais seulement internes. Il y avait un qui portait les vêtements de l'autre, des vêtements qui semblaient avoir été déchirés, d'autres qui avaient des bandages de fait avec les vêtements de l'autre qui était à un kilomètre de... Bref, c'était le bordel total. Là. La scène était extrêmement difficile à comprendre et ça l'a donné lieu, ça l'a été un terreau fertile pour des théories de complot, des théories de conspiration pendant... Toutes ces années-là, pendant 60 ans, là, de 1959 à aujourd'hui, il y a toutes sortes de théories qui ont été émises. Les conclusions originales, celles qu'on avait amenées d'ailleurs dans l'émission, à la fin de l'émission, on disait ce qui est le plus probable, c'est une avalanche qui aurait eu lieu et ils se sont fait prendre par surprise et s'en est suivi un moment de panique, un mouvement de panique, des mauvaises décisions. Certains sont partis dans une direction, d'autres sont partis dans une autre direction. On a tenté de retourner à la tente, on est resté coincé, la visibilité était nulle, on est mort d'hypothermie, d'autres sont morts parce qu'ils sont tombés dans un ravin. C'était la conclusion de la première enquête. Ensuite, on a fait une deuxième enquête parce que les familles n'étaient pas satisfaites. Et là, c'est là que les théories farfelues sont sorties. On a commencé à parler de tests d'armes militaires nucléaires parce qu'il y avait certains résidus de radioactivité dans le secteur. Ensuite de ça, on a parlé d'une créature étrange qui aurait massacré les randonneurs. On a dit qu'un des randonneurs était un tueur en série et qu'il avait assassiné les autres. Bref, il y a eu à peu près toutes les théories possibles. On parlait des extraterrestres, parce que dans des théories de complot, ouais, ça prend tout le temps des extraterrestres. Alors, tu te souviens, Tristan, on avait fait le tour des théories, et il y en avait des très farfelues, mais on revenait toujours, et nous autres, ce qui nous ramenait le plus à la réalité de ce qui s'était passé, c'était l'avalanche suivie d'un espèce de mouvement de panique.
Oui, exactement. Ouais, je me rappelle, c'était la théorie qu'on trouvait, en tout cas, qui était la plus possible. Puis là, on a des détails. Est-ce qu'on avait...
En 2019, il y avait eu une nouvelle enquête. Tu te souviens, quand on a fait l'épisode, ça faisait pas si longtemps que ça que cette enquête-là était terminée. Oui. On avait des hypothèses préliminaires qui revenaient encore une fois à la fameuse avalanche, avec un mouvement de panique, des mauvaises décisions. Les jeunes, qui avaient quand même de l'expérience, c'était des jeunes en forme, qui avaient de l'expérience comme randonneurs, mais quand même... se sont fait prendre par une avalanche et on a paniqué un peu, on n'a pas pris les bonnes décisions. Et souvent, hein, c'est une question de quelques secondes. Tu te souviens, il avait même coupé la tente pour sortir de la tente plus rapidement pour sauver quelques secondes. Alors, c'était à ce point-là la panique. Et en 2019, on avait réouvert l'enquête et on avait encore une fois conclu que c'était une avalanche et que c'était la cause de la catastrophe. Mais on contestait ces données-là pour une raison, c'est que l'endroit où le camp a été retrouvé, historiquement, il n'y en a pas d'avalanche dans ce coin-là.
Donc, c'est assez... ça prouve qu'il ne peut pas y avoir d'avalanche là, mais je suis quand même curieux.
Là, on a eu d'autres analyses qui ont été faites sur la dernière enquête. Alors, le National Geographic a fait comme une espèce de... On a repris le dossier et là, on a mandaté des gens pour aller étudier le phénomène ou les conclusions. Et est-ce que les conclusions se peuvent? Est-ce que scientifiquement, ce qu'on conclut avec l'avalanche, les mauvaises décisions, le blizzard et tout, le vent, bon, la neige, est-ce que c'est possible? Alors, on a mandaté Alexander Pouzrin, ingénieur en géotechnique à Zurich, qui démontre dans une étude qu'un tremblement de terre peut provoquer une avalanche qui ne s'écoulerait que quelques minutes, voire quelques heures plus tard. Il s'est associé avec Johan Gohm, directeur du laboratoire de simulation des avalanches dans un institut fédéral suisse et use de simulations informatiques pour reconstituer les événements de 1959. Ils disent que les aventuriers, les explorateurs, pas les explorateurs, mais les randonneurs se sont fait piéger par les lieux. Donc la montagne sur laquelle ils se trouvent paraissait légèrement inclinée. Elle l'était en réalité à 30 degrés, ce qui est quand même à 30 degrés beaucoup plus que ce que ça semblait. C'est un peu comme un faux plat. Hein? Des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas de pente. Et là, on fait du vélo. Donc, voyons, il me semble que je force. Là. Et on se rend compte que finalement, il y en a une pente, mais à l'œil, on ne la voit pas. C'est un peu le même phénomène.
Ben oui, OK, c'est ça. Fait qu'il y en avait une pente.
Oui, voilà. Et le 30 degrés, là, on dit que c'est à peu près le minimum pour qu'une avalanche se produise. En bas de 30 degrés, il peut y avoir des chutes de neige, des glissements de neige, mais ça ne provoquera pas un effet d'entraînement comme une avalanche. Mais à 30 degrés, ça devient possible.
Et tu parlais d'un tremblement de terre. Est-ce qu'on peut avoir les archives sismiques de cet endroit-là?
Ben, c'est ça, là. On semble avoir étudié tout ça parce que là, c'est un résumé là, que j'ai. Je n'ai pas l'article complet du National Geographic parce que c'est quand même assez complexe. Mais on dit que l'enquête démontre qu'une couche de neige fragile s'était formée sur place et sur laquelle les amas de flocons pouvaient glisser. En s'installant, les randonneurs ont déstabilisé cette pente. Les chercheurs supposent également que des vents catabatiques capables de transporter de grosses quantités de neige auraient augmenté la charge sur l'inclinaison de 30 degrés, expliquant également les 9 heures écoulées entre le déblayage et l'accident. Alors, on s'est installé et 9 heures plus tard, l'accident s'est produit, mais c'est un ensemble de facteurs météorologiques qui ont fait que, malgré qu'on est installé, malgré que l'avalanche aurait dû se faire au moment où on a creusé, où on a déblayé, il y a eu un délai entre les deux parce que les vents ont pris de la vigueur, ont amené plus de neige et ça a augmenté la charge. Et à ce moment-là, ça a glissé. Là, est-ce qu'il y a un tremblement de terre en dessous de ça? Je vais essayer de voir, là, faire des recherches un petit peu plus poussées. Mais je ne veux pas prendre une heure là, pour faire le résumé, mais en gros, les conclusions auxquelles nous, on était arrivés, puis je ne veux pas qu'on se pète les bretelles, mais on était quand même arrivés sensiblement à ces conclusions-là, qu'il y avait eu une avalanche finalement là, qu'ils avaient pris par surprise et auxquelles ils ne s'attendaient pas, suivi de différentes mauvaises décisions, a fait en sorte que malheureusement, les 9 randonneurs ont été retrouvés morts une fois là, qu'on a déclaré qu'ils étaient portés disparus.
Ah ouais! Donc c'était véritablement... ce n'était pas l'abominable homme des neiges.
Et non, ce n'était ni Bigfoot, ni le Yeti, ni les extraterrestres, ou c'était pas non plus des tests avec une arme nucléaire. On parlait aussi de satellites là, qui auraient pu irradier ou envoyer des lasers. Puis on parlait, tu te souviens, sur les photos, les appareils photos, on avait développé les films. Il y avait des espèces de sphères oranges sur les clichés qu'on n'était pas capable d'identifier ou d'expliquer. Alors, ça augmentait la thèse des extraterrestres, ça aussi. Bref, avec toutes les données scientifiques et les simulations qu'on a pu faire, simuler la qualité de la neige, simuler probablement un tremblement de terre aussi, on a fait un paquet de simulations comme ça, et il était bel et bien possible qu'une avalanche se produise à l'endroit exact où ils étaient.
Ah, donc c'est un autre des dossiers qu'on a couverts, que finalement, dans le col de Dyatlov, lorsqu'on en a parlé, on n'avait pas vraiment d'hypothèse, disons, prouvée. Mais là, est-ce qu'on pourrait dire que c'est dossier réglé?
Ben oui, je pense que là, après toutes les enquêtes qu'il y a eu, et on a réouvert l'enquête, et on a redépêché des experts, et on a refait des simulations, et c'est pas la première fois qu'on le fait, et on arrive sensiblement toujours à la même conclusion, mais là, on a pu le démontrer avec les données scientifiques qu'on avait. Je pense que, c'est certain, la théorie de complot, hein, Tristan, il y en a qui lâchent jamais le morceau, il y en a qui vont continuer de dire que c'est une couverture, puis qu'on veut cacher les faits en faisant cette nouvelle étude-là, mais dans la population en général et auprès des familles, je pense que on va commencer là, à passer à autre chose et à dire, bon, ben là, c'est la troisième fois qu'on arrive à cette conclusion-là, donc... je pense là, qu'on peut commencer à dire qu'on a trouvé, on a vraiment trouvé l'explication là, qui va avec les événements du col de Dyatlov.
Ça me prendrait une grosse étampe avec le mot conclu en vert.
Ben oui, hein, je pense qu'on va se faire un effet sonore. Là. Bon, FR réglé. Puis là, on va pouvoir dire qu'on a réglé une affaire. Puis c'est drôle parce qu'on a tellement de sujets qu'on peut revenir, on commence à revenir sur nos sujets. Je trouve ça vraiment passionnant de pouvoir faire des petites conclusions comme ça avec des sujets qu'on avait traités et qui étaient toujours considérés comme non résolus. Et là, tranquillement, on a parlé du tueur du Zodiac. Son deuxième message a été décodé. Malheureusement, son nom devait y paraître. Et non, il n'est pas là, son nom. Il avait promis qu'on découvrirait son identité si on réussissait à décoder son deuxième message. Et c'était faux! Alors, c'est très décevant. Mais pour ce qui est du col de Dyatlov, on a des données de plus en plus probantes que c'est bel et bien un phénomène naturel et météo qui a causé la mort des 9 jeunes Russes il y a 60 ans.
Wow, incroyable, incroyable. On avait quand même vu juste un peu.
Hey, je te dis qu'on est bon.
Peut-être qu'on va revenir sur l'astéroïde Oumuamua un jour. Hein, qui sait.
Ben, peut-être. C'est peut-être nous autres, on va peut-être décoder le Voynich qui va parler d'un astéroïde mystérieux qui s'en vient. Puis ça va tout être lié, ça. Alors voilà, et je sais que la dernière fois qu'on a fait une petite conclusion comme ça en faisant un retour, ça avait été bien apprécié. Alors quand on a quelque chose à un retour à faire, quelque chose à ajouter, ça va nous faire plaisir de le faire. Et si vous voyez passer des articles comme ça, hein, on passe pas là, 60 heures par semaine à scruter Internet, alors ça peut arriver qu'on les manque, qu'on ne les voit pas. Gênez-vous pas, il y a plein de gens qui me l'ont envoyé là, l'article sur le col de Dyatlov. Alors ça me fait plaisir après ça d'aller analyser un petit peu là, les nouvelles informations et de faire un tout petit retour, là, un 5-10 minutes en fin d'épisode comme ça.
Absolument, très bonne idée.
Hey Tristan, un gros merci.
Ah ben merci à toi, merci à vous d'avoir été là.
Ah ben oui, puis continuez d'interagir avec nous sur la page Facebook. Il y a énormément de mouvements hein, depuis le début de l'année. Là. Beaucoup de gens qui laissent des commentaires, qui nous envoient des messages. Continuez à le faire. On n'est pas toujours disponible pour répondre au moment où vous les faites, là, mais ça nous fait toujours plaisir de vous lire par la suite.
Ben oui, vraiment. Non, c'est super cool. Qui sait, peut-être que cette année 2021, on va atteindre le 1000 abonnés sur le compte.
Ah, ça serait bien, ça.
Ça serait super cool. À date, on s'y approche tranquillement, pas vite.
Excellent. Ben oui, ça s'en vient. Et sur les différentes plateformes de balado-diffusion, on a dépassé largement les 100 000 écoutes et auditeurs. Alors, continuez comme ça à nous écouter. Puis parlez de nous, hein, si vous trouvez ça intéressant. Là, gênez-vous pas pour jaser avec nous. C'est un phénomène qui a pris une vie de lui-même. On fait pas de publicité tant que ça. On en parle à nos amis. Quand il y a un nouvel épisode, on le diffuse sur nos différents réseaux, mais on ne fait pas de publicité à grande échelle et le phénomène est en train de faire boule de neige. Et même quand on a une période là, où on ne produit pas beaucoup d'épisodes, on continue à avoir plusieurs centaines d'écoutes par jour. Alors, c'est vraiment impressionnant.
Absolument, c'est vrai, ça, c'est cool. Puis, je tiens aussi à le dire, là, je suis loin d'être un expert de la science, de l'astronomie, Donc, s'il y a des scientifiques qui nous écoutent en ce moment, sachez que j'ai fait de mon mieux pour apporter les points les plus pertinents. Mais ça se peut que j'aille échapper à un fait ou deux.
L'a toujours dit, Tristan, nous, on est là pour essayer de vulgariser et d'intéresser, piquer la curiosité. On n'est pas des documentaristes et on n'est pas non plus là, des scientifiques. Là. On parle de domaines dans lesquels on n'est pas des experts, mais on essaie de synthétiser l'information qui est disponible. Et à partir de là, c'est la job des auditeurs d'aller se documenter eux-mêmes.
C'est vrai. Je suis loin d'être un astrophysicien, je tiens à le dire.
Non, hein? Mais les astrophysiciens sont bizarres des fois, fait que c'est peut-être mieux de même.
Mais moi, c'est parce que j'ai l'image du livre devant moi, David Loeb, là. Je vais clairement aller le lire en me faisant des...
Ben oui, puis pourquoi pas mettre le lien sur notre page Facebook, comme ça les gens pourront s'y référer et peut-être aller le consulter eux-mêmes.
Ah, ben oui, très bonne idée.
Hey, merci beaucoup Tristan, et on se retrouve la semaine prochaine.
Ben oui, ça fait plaisir. Merci encore à vous d'avoir été là et un rendez-vous à chaque semaine.
Ah oui, à la prochaine. Bye-bye.
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
Igotte, la poupée qui pue, qui pète.
Vous voulez faire plaisir à votre enfant cette année? Offrez-lui Huguette, la poupée réaliste qui pue, qui pète.
Regarde, maman, ma belle poupée Huguette qui pue, qui pète.
Oh, on dirait que le plancher craque chez vous.
Avec Huguette, la poupée qui pue qui pète, vous vivrez de savoureux quiproquos en famille.
Huguette, tu veux jouer avec moi au pique-nique?
Oh oh, on dirait que le chien a un problème d'intestin.
Oui, Huguette, la poupée qui pue qui pète. C'est le cadeau de 2020.
Maman, Huguette va s'asseoir avec nous pour souper parce qu'il a faim.
C'était pas moi, c'était la chaise qui a craqué.
Et pour compléter la collection de votre enfant, procurez-vous Yvette et Ginette, les deux petites sœurs d'Huguette, au Foufoune sonore.